VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 17h à Bissau. Bonsoir, bienvenue en Guinée-Bissau. La situation politique est devenue très tendue suite au décret présidentiel rendu public hier soir après le discours du président José Mario Vaz à la Nation, mettant ainsi fin au gouvernement de Domingo Simoes Pereira. Retrouvons tout de suite à Bissau notre correspondant Noah Mankali.
Le président de la République José Mario Vaz, après son discours à la Nation, a émis un décret présidentiel mettant fin au régime du Premier ministre Domingo Simoes Pereira. Aujourd'hui, les réactions ne se sont pas faites attendre. Le mouvement national de la société civile, à travers son président Georges Gomis, s'est lamenté de la position prise par le chef de l'État José Mario Vaz en mettant fin au régime de Domingo Simoes Pereira. Pour le moment, tout est calme dans la capitale Bissau où le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, vainqueur des dernières élections présidentielles et législatives, a convoqué tous ses militants et sympathisants de sortir dans la rue pour assister au discours du président du PAIGC et ex-premier ministre Domingo Simoes Pereira. Quant aux députés de la Nation, ils proposent en ce moment de terminer avec le régime du chef de l'État avant qu'il ne soit tard. Il faut souligner que la situation politique semble être très tendue en ce moment en Guinée-Bissau, car nul ne peut imaginer ce qui peut arriver après, vu la division du peuple bissau-guinéen sur cette situation très difficile qui sévit en Guinée-Bissau. Noah Mankali, Bissau, VOA Afrique.
Au Cameroun, 10 personnes, dont 2 soldats du bataillon d'intervention rapide, l'unité d'élite de l'armée camerounaise, ont été tuées lors d'une attaque des insurgés islamistes nigériens de Boko Haram à Blam, une localité de l'extrême nord proche de la frontière avec le Nigeria, a-t-on appris aujourd'hui de sources sécuritaires. Et le chef de l'État nigérien, Muhammadu Buhari, a donné 3 mois à ses forces armées pour en finir avec les insurgés du groupe Boko Haram. Entré en fonction le 29 mai, M. Buhari a limogé à la Mijie les chefs de l'État, le chef de l'armée de terre, de l'air et de la marine, ainsi que le chef d'état-major des armées, avec pour objectif affiché de reprendre la main sur la lutte contre Boko Haram, qui a multiplié des raids meurtriers et attentats suicides ces dernières semaines. Et toujours au Nigeria, découverte des corps de 2 passagers portés disparus mercredi après l'accident d'un hélicoptère dans la lagune de Lagos, ce qui porte à 6 le nombre de victimes du crash. 6 autres passagers avaient été blessés dans l'accident. L'hélicoptère effectuait une liaison entre une plateforme pétrolière et l'aéroport de Lagos lorsqu'il s'est écrasé dans la lagune bordant la capitale économique nigériane. Arrestation hier soir à N'Djamena d'une 30aine de représentants d'un syndicat d'étudiants au Tchad. Selon un membre de l'Union nationale des étudiants de ce pays, la police les a appréhendés au cours d'une réunion où ils devaient mettre en œuvre la revendication de paiement de leur bourse d'études en votant le déclenchement d'une grève dans les universités du pays. Jacques Aristide.
La réunion regroupait tous les secrétaires généraux des sections provinciales du syndicat UNET, arrivés dans la capitale tchadienne en vue de préparer cette grève. Une source policière tchadienne a confirmé à l'AFP l'arrestation de la 30aine d'étudiants qui ont été amenés dans les locaux de la police judiciaire. D'après les universités concernées, les étudiants réclament 6 à 9 mois d'arriérés de bourse. En mars, les écoles et universités de N'Djamena étaient restées fermées plusieurs jours à la suite d'une manifestation violente d'étudiants contre le port du casque obligatoire dont le prix avait augmenté. Et un mois plus tard, les enseignants des écoles et lycées publics de la capitale avaient également déclenché une grève pour dénoncer les retards de paiement de leur salaire. Les membres de la société civile et de l'opposition demandent souvent au président Idriss Déby Itno d'utiliser la manne pétrolière pour améliorer les conditions de vie de la population.
Au Burundi, au moins 3 personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi au cours de nouvelles violences à Bujumbura, a indiqué la police. L'incident a eu lieu dans le même quartier où le général Adolphe Nshimirimana, homme fort de l'appareil sécurité, avait été tué le 2 août dans une attaque à la roquette. Il s'est déroulé à proximité d'un célèbre bar dont le général Nshimirimana était propriétaire et servant de QG aux militants CNDFDD.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
En Égypte, la décapitation par le groupe État islamique d'un Croate travaillant pour une compagnie française fait redouter une désaffection des touristes et des investisseurs étrangers, mais renforce aussi l'Égypte dans le rôle qu'elle affectionne, celui de rempart contre le djihadisme. Eric Manirakiza.
Cette nouvelle atrocité pourrait notamment permettre de justifier la vente au régime d'Abdel Fattah al-Sissi de nombreux armements par certains pays occidentaux, comme les États-Unis et la France. Ces pays ferment volontiers les yeux sur les violations massives des droits de l'homme en Égypte, où le régime réprime d'une main de fer toute opposition. L'Égypte dispose de l'une des armées les mieux équipées de la région, surtout depuis que Washington a repris son financement et la livraison d'avions de combat F-16 et que la France lui a vendu 24 Rafales et une frégate multi-mission FREM. En attendant, la branche égyptienne de l'État islamique, qui se fait appeler province du Sinaï, semble avoir changé de stratégie. Après avoir tué soldats et policiers en représailles à la répression des partisans du président islamiste déchu Mohamed Morsi, elle semble faire comme l'État islamique en Syrie et en Irak, kidnapper et décapiter des Occidentaux et effrayer ainsi les touristes et les compagnies occidentales présente en Égypte.
Un tribunal militaire antiterroriste pakistanais a condamné à la peine capitale 6 hommes impliqués dans le raid des talibans contre une école de Peshawar. L'attaque avait fait plus de 150 morts en décembre, a annoncé aujourd'hui l'armée dans un communiqué. Dans la foulée de cette attaque, la plus meurtrière de l'histoire moderne du Pakistan, le gouvernement d'Islamabad avait levé son moratoire sur la peine capitale en vigueur depuis 2008 et donné son feu vert à la création de nouveaux tribunaux antiterroristes militaires pour juger des civils. Bagdad, la capitale de l'Irak, est de nouveau le théâtre d'un attentat. Un camion bourré d'explosifs a explosé juste après l'aube dans un marché bondé de Sadr City, un quartier chiite de la capitale irakienne. Le point avec Morgan Guiriek.
Le bilan de cette dernière attaque s'élève à au moins 67 morts et des dizaines de blessés. Un carnage revendiqué par le groupe État islamique qui considère les chiites comme des hérétiques. Le groupe extrémiste sunnite s'est emparé d'une grande partie du territoire irakien en capitalisant sur la frustration des populations sunnites dirigées par un gouvernement majoritairement chiite. Les autorités irakiennes se battent donc aux côtés des milices chiites contre l'État islamique dans plusieurs provinces. Dans le même temps, une campagne américaine vise ces djihadistes, mais le chef de l'état-major américain met en garde. Les frappes aériennes ont fait de faibles progrès et le conflit semble être dans l'impasse. Washington devrait envisager d'envoyer des soldats américains aux côtés des forces irakiennes, estime ainsi le général Ray Odierno.
La lutte contre le groupe État islamique au Proche-Orient, des avions F-16 américains bombardent depuis hier les positions de l'État islamique en Syrie à partir de la base aérienne d'Incirlik en Turquie. Ankara a donné son feu vert à l'utilisation de cette base par l'aviation américaine le mois dernier, mais jusqu'à présent, c'était uniquement des drones américains qui s'en servaient pour attaquer les militants du groupe terroriste en territoire syrien. L'objectif de Washington et d'Ankara, créer une zone d'une centaine de kilomètres de profondeur en Syrie le long de la frontière turque, qui serait complètement débarrassé de tout élément appartenant à l'État islamique. États-Unis, Russie, le secrétaire d'État américain John Kerry a exprimé ses inquiétudes dans un appel téléphonique à son homologue russe Sergei Lavrov à propos du voyage ces dernières semaines en Russie du général iranien Qassem Soleimani, et ce en violation d'une résolution de l'ONU de 2007 qui lui interdit de voyager à l'étranger, a annoncé hier un diplomate américain. Le général Soleimani est responsable des gardiens de la révolution iranienne et chef de la force Code chargée des opérations extérieures de l'armée d'élite et du régime. On termine par du sport et des nouvelles du Brésil, de la sélection brésilienne de football. Thiago Silva, défenseur central du PSG et ex-capitaine du Brésil, n'a pas été convoqué aujourd'hui par le sélectionneur Dunga pour les deux prochains matchs amicaux de la Seleção, contrairement à Lucas et Kaká qui font leur retour dans le groupe pour ces deux derniers matchs amicaux avant d'entamer la campagne de qualification au Mondial 2018. La Seleção va affronter aux États-Unis, le Costa Rica, et ce sera le 5 septembre à New Jersey, et le 8, les États-Unis, ce sera à Boston. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. VOA Afrique, suivez-nous sur notre site internet voafrique.com. Merci de nous avoir choisis, et tout à l'heure, pour un nouveau journal, ce sera dans 50 minutes exactement sur la même station. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.